15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux acouphènes, ces sensations auditives comme des bourdonnements, parfois que chez certaines personnes, ils doivent les subir toute la journée. Avec notre invité, le docteur Yves-Victor Camami, ORL à Paris, nous ferons le point sur ce que sont vraiment ces bruits incessants et surtout sur les solutions, s'il en existe, pour s'en débarrasser. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, aujourd'hui on profite de la journée mondiale du don d'organes pour tout vous dire sur le don du vivant. Ça concerne surtout les dons de reins, mais parfois aussi d'une petite partie du foie. Comment tout ça se déroule? Y a-t-il des risques? Et vous verrez surtout que cela peut sauver des vies. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de la taille du pénis, alors que chez la majorité des hommes, elle est tout à fait normale. Chez certains, vous verrez que cela peut tourner à l'obsession avec un lourd impact sur la vie sexuelle.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions sur le répondeur d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et donc on écoute la première question, c'est celle d'Anissa, 28 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'avais une petite question, j'envisage de partir en voyage et de faire un gros stage de plongée. Et j'ai des prothèses mammaires, je voulais savoir si c'était dangereux par rapport à la pression et s'il y avait des dangers par rapport aux prothèses. Merci beaucoup, bonne journée.
Alors c'est vrai que c'est une question que les femmes qui portent des prothèses mammaires, que ce soit pour des raisons esthétiques ou après un cancer, pour une reconstruction, elles peuvent se poser. La plongée par exemple, c'est possible ou c'est contre-indiqué? Il n'y a pas un risque que ça explose?
Non.
Parce que c'est ça j'imagine la peur.
Oui exactement, c'est une idée reçue. Alors évidemment que les prothèses mammaires, avant d'être commercialisées, d'être implantées, elles sont testées, mises à rude épreuve, on les teste dans des conditions expérimentales, où on les sollicite bien plus que dans la vie réelle.
C'est un peu comme le crash test pour les voitures, c'est extrême quoi,
exactement.
C'est ça.
Exactement, donc on fait ce petit test qui permet justement de vendre et de ensuite les implanter tranquillement aux femmes.
Donc impossible vraiment, on est d'accord docteur Jimmy, qu'elles explosent, ou même dans un voyage en avion par
oui,
exemple.
Oui exactement, et quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez posé des prothèses, que ce soit à but esthétique ou dans le cadre d'une reconstruction après un cancer du sein, on peut évidemment faire de la plongée et prendre l'avion, elles n'exploseront pas en vol ou ne feront pas l'effet de bouée qui vous fera remonter vers la surface. Donc c'est une idée reçue, vous pouvez voyager et profiter de la plongée sereinement.
Il y a juste éventuellement un gros choc, hein, par exemple un accident de voiture qui pourrait les
exactement,
faire
éclater. Exactement, mais là c'est
ça,
les gros AVP, exactement,
voilà.
Et dans
AVP.
Ces cas-là... Ouais, les accidents de la voie publique, pardon,
d'accord.
Excusez-moi. Et donc là, effectivement, il peut y avoir des risques, mais dans ces cas-là, on est vraiment...
C'est
niche, et en plus de ça, le jour où ça arrive, évidemment qu'on fera des examens pour s'assurer que tout va bien.
Alors, puisque on est autour des idées reçues sur les prothèses mammaires, une dernière pour la route, est-ce qu'on peut allaiter quand on a des implants?
Oui, on peut allaiter, alors ça dépend de la technique chirurgicale, il y a trois types de techniques. La première, c'est de poser par voie qu'on appelle périaréolaire, c'est-à-dire autour du mamelon. Mm-hmm. On a la voie sous-mammaire, donc sous le mamelon, et puis on a la voie axillaire, qui est donc sous l'aisselle.
Ah oui.
Et lorsqu'on pose une prothèse, on ne touche pas normalement au canot galactophore ou lactifère qui permettent d'allaiter.
On met normalement
les implants derrière les glandes mammaires. Donc en principe, sauf cas particulier,
oui, c'est pas
on
possible,
peut allaiter lorsque on a une prothèse. Et puis il ne faut pas hésiter à dire à son chirurgien si on a un désir de grossesse et d'allaiter, peut-être qu'il
adapte sa technique. Une technique effectivement qui soit favorable
compatible
à l'allaitement. Effectivement. Merci beaucoup docteur Jimmy. Alors justement la question suivante, elle porte sur l'allaitement. Des questions autour de la poitrine aujourd'hui, hein, c'est marrant. Cette fois c'est Marie-Charlotte qui nous l'a posée, on l'écoute.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie, je me permets de vous appeler pour vous poser une petite question. J'allaite actuellement mon enfant de 3 mois et je voulais savoir si certains aliments étaient déconseillés pour son bien-être. J'ai cru voir que le chou et le persil entre autres étaient vivement déconseillés. Est-ce vrai? Que faire? D'avance un grand merci, au revoir.
Bon alors Jimmy, l'allaitement c'est vous le spécialiste, hein. Vous avez eu 3 garçons, je suis sûre qu'ils ont été allaités allègrement, vous
exactement.
Y connaissez tout par cœur.
Je connais tout par cœur, ma femme est Sacha, donc elle connaît en plus tout par cœur.
Voilà, c'est ça. Alors est-ce qu'il y a vraiment des aliments, elle parlait du persil dans la question, est-ce qu'il y a des aliments complètement contre-indiqués?
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'allaitement et parfois des idées reçues que nous on transmet en consultation, l'histoire du chou pourrait donner des coliques et c'est ce qui fait que on le déconseille aux femmes enceintes, même si aucune étude n'a prouvé ça, parce que
c'est pas scientifiquement
prouvé.
C'est pas très
scientifique, mais globalement
c'est de l'empirique, quoi.
Exactement. Donc au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça pouvait donner des coliques. Le persil, comme la sauge, ça pourrait couper l'allaitement et arrêter l'allaitement. Mais encore une fois, rien n'est scientifique, rien n'est prouvé. La seule chose, c'est que les quantités de persil qu'on pourrait prendre dans l'alimentation normale n'auraient aucun impact sur l'allaitement.
Il faudrait manger une salade entière de
exactement
persil,
10 bottes de persil par jour pour peut-être avoir un impact. Donc bref, vous pouvez prendre un peu de persil ou
un peu de persil, il n'y a pas de problème. Et quand on allaite, du coup, on peut manger ce qu'on veut. Alors c'est bon, ça ne change pas le goût du lait du bébé.
Alors si, ça peut changer le goût du lait. Et le lait s'adapte en fonction du terme du bébé, de l'heure à laquelle il prend le sein. Et on sait que plus une femme diversifie son alimentation, et plus le lait peut avoir un goût différent, permettant à l'enfant de goûter en quelque sorte, d'avoir un aperçu des aliments. Mais encore une fois, on peut manger ce qu'on veut quand on est enceinte.
Alors, et en dehors des aliments qui peuvent éventuellement provoquer des allergies, je sais qu'il y a quelques bébés qui réagissent mal parfois quand la maman boit trop de produits laitiers, donc petite intolérance au lactose ou alors allergie aux protéines de lait de vache. Mais est-ce qu'il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas du tout boire ou manger quand même quand on est enceinte ?
On sait qu'effectivement l'excès de lait peut parfois donner des coliques chez les bébés et 5% des femmes qui prennent beaucoup de lait vont avoir des enfants avec des réactions, c'est-à-dire qu'ils vont mal digérer le lait et avoir des douleurs abdominales. En revanche, ce qu'on peut donner comme conseil très rapide, pas trop de café, ça passe très vite dans le lait. 2 à 3 cafés maximum par jour, mais c'est valable pour la population
normale.
Ouais. Limitez vos apports en poissons, notamment les gros poissons comme le thon, le requin, parce que le mercure accumulé va se transmettre dans le lait. Évitez évidemment l'alcool et attention à certains médicaments qui forcément passent dans le lait, notamment les antalgiques et la codéine. On évite d'en donner lorsqu'on allaite.
En dehors de ça, on profite et on fait du bien à son bébé. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Marie-Charlotte qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons dès que possible.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la prévention des chutes pour les personnes âgées. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Yves-Victor Camami, ORL à Paris, pour un grand dossier consacré aux acouphènes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et puis on retrouvera dans quelques minutes notre invité, le docteur Yves-Victor Camami, médecin ORL pour parler des acouphènes. Mais tout de suite, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Alors ça part d'une étude menée par le docteur Antoine Pio, gériatre au CHU de Toulouse. Mais il a fait cette étude dans le plus grand centre de recherche sur la e-santé dans le monde, basé à Portland aux États-Unis.
Exactement. Alors il a mené une étude où il a eu plus de 200 personnes âgées volontaires pendant 4 ans et on a analysé près de 400 chutes. Ces chutes ont montré que la plupart, elles ont lieu à l'intérieur de la maison et dans des endroits plutôt bien éclairés. Donc dans 80% des cas, c'est pas dans le noir que ça se passe. La chambre à coucher est l'endroit le plus fréquent où la personne chute.
C'est fou, et parce surtout, qu'on y dort surtout dans la chambre à coucher.
Mais ils sont souvent semés d'obstacles et d'embûches. Ouais. Et surtout, chose la plus importante, c'est que parmi les chutes qui n'ont donné lieu à aucune intervention de la part d'un médecin, c'est-à-dire qu'on n'a pas consulté, et ben malgré tout, 8% d'entre elles ont entraîné une modification de la capacité à marcher, c'est-à-dire avec un risque de chute secondaire.
Mais alors une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette étude finalement ?
Alors ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la gravité de la chute, il faut consulter. C'est ce que cette étude a montré. Et en y prenant garde, en repérant des chutes qui pourraient apparaître sans conséquence, eh ben on pourrait faire gagner aux patients une espérance de vie un petit peu supplémentaire, donc des années en bonne santé, en essayant de s'attaquer à ces chutes qui, de toute apparence, paraissaient sans conséquence.
Alors le problème, c'est comment on sait qu'une personne âgée va chuter ? Est-ce qu'on peut prédire ça ?
Alors le problème, c'est qu'on peut prédire qu'une personne âgée va chuter, mais on ne sait pas dire quand. Et l'enjeu de ce centre de recherche, c'est de se dire quand est-ce qu'elle va chuter. Et donc, ils ont utilisé ces données pendant plus de 3 ans, et avec des capteurs infrarouges placés au domicile du patient. Certains étaient placés au niveau du plafond. On a pu mesurer des choses qui sont pour nous insensibles à l'œil nu, comme la vitesse de marche, la variabilité, le type de déplacement, le changement de pièce. Et grâce à ça, on arrive à prédire si une personne âgée va chuter dans le mois qui arrive. Et à partir de là,
on peut
faire une intervention et essayer d'éviter cette chute et d'éviter les conséquences de la chute.
Ça a l'air très prometteur, effectivement, si on arrive à prédire, c'est génial. Mais en attendant qu'on ait ce dispositif pour monsieur et madame tout le monde, quel conseil simple on peut donner
Alors c'est simple, si vous tombez dans la vie de tous les jours, même si vous vous relevez seul, même si vous n'avez pas de douleur, ce n'est pas anodin, et c'est un signe d'alerte qu'il ne faut pas négliger. toute chute est importante et doit amener à consulter. Et enfin, un bon vieillissement, c'est un vieillissement pour lequel on consulte avant d'avoir des symptômes. Et c'est ce qui permet de gagner une espérance de vie un peu supplémentaire. Donc n'attendez pas d'être malade pour vous soigner.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le Dr Yves-Victor Kamami, ORL à Paris, avec qui aujourd'hui on fait le point sur les acouphènes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Dr Kamami. Alors d'abord, avec vous, on va essayer de savoir précisément de quoi on parle. Quand on dit les acouphènes, en fait, il n'y a pas un acouphène, il y a des acouphènes, il y a plusieurs sortes. Hein, c'est ça, ça fait quoi un acouphène dans l'oreille?
Un acouphène, c'est une sorte de bruit parasite qui, en fait, que ce soit un sifflement, soit un bourdonnement, et qui va entraîner donc une gêne permanente pour le patient. Et donc, soit il est ancien, donc c'est quelque chose qui...
Ça fait quoi? Pshhh. Non.
Ça fait pshhh quand c'est un sifflement, et ça fait bouh quand c'est un bourdonnement. Donc en fait, en fonction, disons, du type d'acouphène, on va plus ou moins se diriger. Il peut être aussi ce qu'on appelle pulsatile, c'est-à-dire comme un cœur qui bat, pshhh, pshhh, pshhh. Dans ce cas-là, on va peut-être rechercher en effet une cause vasculaire.
Et est-ce que c'est fréquent? Il y a quelle part de la population à peu près qui est touchée par ce problème?
Oh, il y a quand même au moins 5% de la population qui est touchée par ce problème. C'est assez fréquent. Le seul problème, si vous voulez, c'est que la majorité des acouphènes sont difficiles à traiter et qu'en fait, il y a des associations comme France Acouphènes qui s'en occupent un peu.
Jimmy?
Et ça touche plutôt les hommes ou les femmes?
Il n'y a pas vraiment de règles, si vous voulez. Tout dépend en fait du type de l'acouphène. Et en fait, le vrai problème, c'est d'essayer de diagnostiquer quelle est la cause ou quelle peut être la cause de l'acouphène.
Et c'est toujours à cause d'un traumatisme sonore, parce qu'on a été à un concert ou quelque chose comme ça? Non, pas toujours.
Non, pas toujours. En fait, le traumatisme sonore est une cause qu'on recherche systématiquement, puisqu'en fait, dans ces cas-là, il y a une chute auditive fréquente.
J'allais vous dire, ce n'est pas à chaque fois la chute auditive, hein, par contre, dans l'acouphène.
Alors, l'acouphène n'est pas obligatoirement accompagnée d'une chute auditive, mais lorsqu'il y a une chute auditive, on va essayer et surtout si elle est récente, on va essayer de traiter en urgence, parce que là, c'est une urgence, en effet, à traiter.
Mais j'imagine qu'il y a des métiers, quand même, où on est plus à risque d'avoir des acouphènes quand on est tout le temps exposé.
Les gens qui ont des marques au piqueur ou qui utilisent des sons au-dessus de 100 décibels, des chasseurs dans l'armée, les explosifs, etc., on risque plus de risque d'avoir des acouphènes, tout à fait.
Alors, on reste ensemble, Dr Kamami, on va continuer à parler des acouphènes. Europe 1. Dans un instant, on passe donc au traitement, car il y en a plusieurs, vous allez voir, pour soulager, voire même guérir certaines formes d'acouphènes, c'est possible. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Yves-Victor Kamami. Alors avec vous, aujourd'hui, on fait le point sur les acouphènes. Vous venez nous expliquer, bon, déjà qu'il y en avait plusieurs sortes en fait, mais au final, c'est lesquels qui sont les plus fréquents finalement?
Alors les plus fréquents sont ceux qui sont provoqués par une sorte de choc sonore, mais en professionnel, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est soumis constamment un choc sonore, ou sinon par le stress. Dans ces cas-là, le problème, c'est que les gens ont tendance à bloquer leur mâchoire et à entraîner, si vous voulez, une sorte de petite luxation du ménisque de la mâchoire qui s'appelle l'articulation temporomaxillaire. Et ce petit déplacement peut entraîner donc une pression sur le nerf auditif.
Quand on serre trop les mâchoires comme ça,
Les gens qui font du bruxisme la nuit, par exemple,
qui grincent des dents
ou qui serrent les dents la nuit, souvent, on peut avoir comme conséquence, si vous voulez, une sorte de blocage du nerf auditif avec un acouphène.
Jimmy?
Et une fois qu'on a diagnostiqué cette anomalie au niveau de la mâchoire, on peut faire quelque chose dessus?
On peut faire quelque chose. Mais déjà, le dentiste, la première chose, c'est que le dentiste fasse déjà un petit contrôle de ce qu'on appelle l'occlusion. L'occlusion, c'est en fait la façon, lorsqu'il vous met des papiers carbone bleu sur les dents pour voir un petit peu
si
vous êtes bien équilibré,
les empreintes,
si vous êtes bien équilibré. Donc il vérifie déjà ça.
C'est-à-dire qu'on serre bien autant à droite qu'à gauche.
Exactement.
Qu'il n'y a pas de déséquilibre. Quoi.
Exactement. On vérifie s'il n'y a pas un déséquilibre. Et en fonction de ça, si on ferait vraiment une très forte usure des dents, éventuellement porter une gouttière, un appareil à mettre la nuit pour ne pas user les dents et déplacer aussi le petit ménisque en question.
Et rien qu'avec ça, on peut avoir un acouphène qui disparaît.
Alors l'acouphène va disparaître pas immédiatement. Il faut peut-être aussi vérifier si au niveau de l'articulation temporomaxillaire, on fait dans ces cas-là ce qu'on appelle une IRM des articulations temporomaxillaires de cette région.
C'est l'ensemble entre la mâchoire et l'oreille, quoi.
Exactement, l'ensemble de la mâchoire et l'oreille. On vérifie s'il y a une luxation ou un écrasement du ménisque en question. Et dans ces cas-là, le traitement va se faire à ce moment-là au niveau du ménisque, soit par un laser soft,
On verra ensuite le laser. Alors reprenons peut-être au début. Quelqu'un arrive dans votre cabinet et vous dit: docteur, j'ai un acouphène. D'abord, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez dans ses oreilles, j'imagine.
La première question que je pose, c'est: depuis quand? Déjà, ça c'est très important. Si c'est ancien ou récent, ce n'est pas pareil. Si c'est un acouphène récent, d'abord on vérifie s'il est unilatéral ou bilatéral, c'est très important.
Un côté ou des deux, effectivement.
Exactement, des deux côtés ou un seul. Donc si, en fait, il est récent et qu'il fait de moins de 8 jours, par exemple, il peut y avoir, s'il y a une baisse d'audition en même temps, on vérifie tout de suite l'audiogramme pour vérifier s'il n'y a pas une surdité brusque, dans ce qu'on appelle une chute auditive sur la fréquence de l'acouphène.
S'il est là depuis longtemps, l'acouphène.
S'il est là depuis longtemps, on vérifie d'abord s'il est unilatéral ou bilatéral, s'il est d'un seul côté ou de deux côtés. S'il est unilatéral, il faut de toute façon vérifier avec l'audiogramme s'il y a une baisse auditive aussi du côté en question où il y a l'acouphène. Et dans ces cas-là, éventuellement faire une IRM pour vérifier s'il s'agit d'un kyste, d'une malformation vasculaire ou d'une tumeur.
Jimmy ?
Moi, j'ai rencontré beaucoup de patients justement avec des acouphènes qui avaient des traitements médicamenteux et j'avais l'impression qu'aucun ne marche. Est-ce qu'il existe des traitements efficaces contre l'acouphène ?
Alors, la majorité, si vous voulez, des traitements médicamenteux ne font que diminuer la gêne, mais ne traitent pas réellement la gêne. L'acouphène est très difficile à soigner et tout dépend exactement de la cause de départ. C'est-à-dire que si on trouve la petite luxation du ménisque, oui, c'est plus facile à soigner. Si on ne trouve pas de cause, et ce qu'on appelle donc un acouphène dont on n'a pas trouvé la cause, idiopathique, dans ces cas-là, le problème, c'est qu'on est un petit peu coincé, on n'a pas vraiment de traitement, disons, efficace à 100%. On peut diminuer les symptômes, soit par des traitements vasodilatateurs tels que le ginkgo biloba, c'est en fait une plante japonaise qui peut, disons, entraîner une amélioration de la vascularisation de l'oreille, mais on n'a pas vraiment de traitement miracle.
Je crois que vous faites marcher les patients aussi. Quand quelqu'un arrive dans votre cabinet, vous dit « j'ai des acouphènes, docteur », vous le faites d'abord marcher un peu.
Mais on vérifie d'abord ce qu'on appelle l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois choses qu'il faut vérifier quand on a un acouphène. S'il y a une baisse d'audition, s'il y a une perte d'équilibre, et s'il y a des céphalées en même temps, des maux de tête en même temps. Donc ça, c'est une chose importante. Et en fonction de cela, on va pouvoir un petit peu se diagnostiquer plus ou moins différentes causes. Et donc, en fonction de ces causes, s'il y a une baisse d'équilibre, tout à fait, on va pouvoir aussi traiter la baisse d'équilibre.
Et quand aucune cause n'est retrouvée, j'ai l'impression que c'est souvent le cas malheureusement, est-ce qu'on peut dire que c'est lié à un contexte de stress, un contexte psychologique, de surmenage, qui pourrait expliquer une majoration de l'acouphène ?
Tout à fait. Il peut y avoir tout à fait, en effet, le contexte de stress qui augmente l'acouphène. Et d'ailleurs, si on recherche un petit peu du côté du stress, une fois qu'on a éliminé les causes autres médicales, et bien dans ces cas-là, on recherche un stress et on retrouve souvent un stress qui va être contemporain du début de l'acouphène. C'est-à-dire que la personne va avoir eu un gros stress, un divorce, un problème,
un décès, etc. Dans l'interrogatoire, vous vous rendez compte que ça coïncide souvent.
Et ça coïncide souvent pile à la date où il y a le début de l'acouphène. Donc, il y a aussi, bien entendu, un contexte de stress qui joue.
Il ne peut pas y avoir une tumeur aussi dans l'oreille, par exemple
ça... Alors, c'est là qu'on va justement, dès qu'on a une suspicion de tumeur, surtout si c'est un acouphène unilatéral d'un seul côté, on va faire une IRM, vérifier.
Des tumeurs bénignes, hein, bien sûr, c'est souvent.
La plupart souvent, c'est des tumeurs bénignes, qu'on appelle le neurinome. C'est un petit kyste bénin, mais qui peut être embêtant lorsqu'il grossit. C'est-à-dire, tant qu'il est bénin, on le surveille, on ne l'opère pas. Mais s'il pousse et s'il devient plus gros, à ce moment-là, on peut être obligé de l'opérer.
Merci, docteur Kamami. On va poursuivre cette discussion passionnante sur les acouphènes. Reste avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler notamment des traitements par infrarouge, des lasers anti-inflammatoires pour soigner les acouphènes. Et puis, on va aussi parler du traitement d'urgence de l'acouphène qu'on peut donner tout de suite dans les quelques heures après un choc sonore, dans un concert par exemple, pour empêcher que les acouphènes s'installent durablement. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Yves-Victor Kamami, ORL à Paris. Alors docteur, vous venez nous dire un truc intéressant quand on avait le micro coupé. Vous disiez que le nerf auditif, finalement, c'est son moyen de dire qu'il souffre d'avoir un acouphène.
Voilà.
Le nerf auditif, il n'y a pas de douleur,
exactement.
Il siffle.
Et la façon dont il exprime en fait sa souffrance, c'est par le sifflement. Et donc a priori, lorsqu'il y a souffrance du nerf auditif, c'est produit par un sifflement ou un bourdonnement.
Et donc vous disiez donc tout à l'heure aussi qu'il y avait donc des acouphènes qui étaient causés par le stress, des gens qui ont des mâchoires très serrées comme ça et qui stressent tout le temps ou qui on peut dater, c'est-à-dire l'acouphène a commencé quand il y a eu telle période de stress ou de choc. Et ces gens-là, il suffit pas juste de les déstresser et l'acouphène disparaît ?
Eh ben ce qu'on essaie souvent, bon, enfin, c'est dans ces cas-là, c'est lorsque c'est un contexte important psychologique, c'est que le psychiatre va donner sûrement dans ces cas-là des antidépresseurs. Si il y a aussi un problème de stress lié donc avec le fait de serrer les dents, on va lui demander de porter une gouttière chez le dentiste. Et si, en fait, on utilise, par exemple, la sophrologie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen, disons, de détendre le patient et d'essayer de lui faire oublier son acouphène, c'est aussi une technique qui marche bien.
Vous disiez que ça venait souvent aussi des dents, donc des problèmes au niveau des mâchoires. Et vous m'avez dit que les dentistes, quand on a préparé l'émission, utilisaient le Botox. Pourquoi faire ?
Alors, c'est pas exactement les dentistes, c'est plus exactement les stomatos. Les stomatos, donc, c'est les chirurgiens maxillofaciales, qui vont en fait faire une sorte d'injection au niveau des muscles du masséter, le muscle de la mâchoire, et qui vont, dans ces cas-là, essayer de diminuer la contraction musculaire la nuit, justement, la fameuse, le fait de serrer les dents la nuit.
Ils font une injection à quel endroit ?
Justement, au niveau de la tempe. Au niveau de la tempe. Et donc, le muscle va être, dans ces cas-là, un petit peu comme paralysé pendant au moins 2-3 mois. Et, enfin, à moitié paralysé.
Et ça fonctionne, les gens ont les acouphènes qui peuvent disparaître.
Ça fonctionne, mais malheureusement, ça fonctionne que peu de temps. Ça fonctionne 3 à 6 mois, le temps que en fait, le Botox s'évacue, il s'évacue à bout d'un certain temps. Donc, ce n'est pas efficace sur une longue durée.
C'est déjà pas mal. Quand on n'a rien qui fonctionne, si tout d'un coup, après une injection, on n'a plus d'acouphène, ce n'est pas désagréable. Et puis, bon, on y retourne 3 mois plus tard et c'est reparti. Ouais. Jimmy ?
Alors, ça, c'est peu connu, mais en cas de, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, en cas de traumatisme sonore récent, il faut aller consulter parce qu'on peut proposer quelque chose et on peut donner un traitement en urgence.
Voilà.
Pour les ados, les jeunes, par exemple, qui vont à des concerts très très forts,
exactement. C'est très important dans ce cas-là de consulter l'ORL, parce qu'il faut à tout prix qu'on fasse un audiogramme, et pour voir un petit peu quantifier ce qui s'est passé, voir s'il y a une chute auditive, et s'il y a une chute auditive, on a 10 jours pour traiter, donc il faut être dans les 10 jours pour soigner cette personne, et en urgence.
On est d'accord, c'est quelqu'un qui sort d'un concert ou d'un stade où il y a eu un
ou
match,
un
et qui tout d'un coup a un acouphène
chasse,
brutal,
ou,
voilà, un acouphène brutal qui survient après avoir une grosse exposition au bruit. Là, il faut vite aller consulter, enfin, mais genre dans les combien de temps ?
Un acouphène persistant, parce
qu'après on a 10 jours, on a 10 jours pour consulter, c'est dans
mais
les 10 jours.
Il faut que l'acouphène soit aussi persistant, parce qu'après un acouphène, après un concert, normalement,
si c'est un petit acouphène qui dure qu'une heure, c'est pas grave. Non, c'est si l'acouphène est persistant et rebelle avec une sensation de baisse auditive, on a l'impression qu'on l'entend moins bien. Donc c'est là qu'il faut s'inquiéter.
Ça reste quelques heures, quoi.
Quelques heures et quelques jours. Il faut, dans ces cas-là, ne pas hésiter à aller voir un ORL, que l'ORL fasse un bilan auditif audiogramme et qui vérifie s'il y a une réelle perte auditive. S'il y a une réelle perte auditive avec l'acouphène, l'acouphène traduit ce qu'on appelle une sorte de perte auditive. Donc c'est un acouphène fantôme. C'est-à-dire il est fantôme de l'endroit où on a perdu la perte auditive. Généralement, lorsqu'il y a un choc sonore avec un traumatisme, c'est le 4000 Hz, c'est une fréquence bien particulière dans les aigus, qui chute. Et dans ces cas-là, l'ORL va pouvoir tout de suite instaurer un traitement.
Le traitement d'urgence, c'est quoi ce traitement alors ?
Alors, il existe de plusieurs types. Ça peut être un traitement anti-inflammatoire à base de corticoïdes, de cortisone.
Par injection
ou par voie buccale. Ça dépend de la technique de chacun. Et sinon, ça peut être aussi un traitement hyperbare dans les gros perte auditive. Dans ces cas-là, on va mettre dans un caisson hyperbare, comme pour les plongeurs, pour pouvoir, si vous voulez, essayer de décomprimer et de diminuer la pression sur les nerfs auditifs.
Et ça marche bien, ce traitement qu'on prend dans les quelques heures, quelques jours qui suivent ?
C'est le plus tôt possible, voilà, c'est ça. En fait, on a 10 jours pour traiter, il faut être dans les 10 jours.
Et si on y est, les gens n'ont plus d'acouphènes et récupèrent leur audition ?
Le but, c'est surtout de récupérer l'audition. L'acouphène peut rester, par contre. Le but, c'est d'essayer de récupérer au plus vite la perte auditive.
Jimmy ?
Vous avez parlé des caissons hyperbares, parce que nous, on les connaît dans certaines intoxications, dans la plongée ou dans les intoxications au monoxyde de carbone. Donc concrètement, on met le patient du coup dans ce caisson.
Exact.
Et qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est l'ORL qui envoie le patient.
Il y a des cliniques spécialisées où il y a des caissons hyperbares. Et dans ces cas-là, c'est un peu comme les intoxications, tout à fait. Et le but, c'est d'essayer.
Et ça marche mieux que les traitements, où on commence d'abord par un traitement ou...
On commence d'abord par le traitement et on essaie de voir si ça suffit. Ça dépend aussi si la surdité est très importante. Parce qu'il faut bien imaginer qu'une surdité brusque, c'est comme un petit infarctus de l'oreille. Et dans ces cas-là, il faut agir très vite. S'il y a une chute importante, par exemple, quelqu'un peut avoir carrément une perte complète de son oreille.
Mais ce n'est pas forcément lié, par exemple, à un coup de feu. On imaginerait un traumatisme sonore extraordinaire.
Ça peut être lié à un coup de feu ou à une sorte de... Quelqu'un à la chasse, ça peut être lié à une explosion, un pétard.
Une claque,
les militaires. Bête,
ou claque, moins, mais surtout, plus les
bruits très
forts.
Il faut y aller sur les claques, Jimmy, c'est bon.
Qui dépassent les 100 décibels. Quand ça dépasse les 100 décibels, déjà, l'oreille souffre.
D'accord. Et alors, vous m'aviez dit en préparant l'émission que vous aviez aussi des lasers que vous pouvez utiliser pour traiter certains types d'acouphènes. C'est quoi ? C'est lasers anti-inflammatoires, je crois.
Anti-inflammatoires, infrarouges, c'est-à-dire que c'est lasers qui vont en fait simplement diminuer l'inflammation. Là, c'est pour essayer de diminuer les symptômes liés au déplacement, ce qu'on appelle la luxation du ménisque de l'articulation temporomaxillaire. Donc dans ces cas-là, on va essayer de faire en sorte que le ménisque, si vous voulez, réintègre sa cavité par ce traitement anti-inflammatoire.
Et qu'il chirurgical, hein ?
C'était pas chirurgical, c'est tout à fait médical. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a aucune opération. Et donc simplement, l'intérêt de faire ça, c'est comme c'est tout à fait indolore et sans risque, l'intérêt, c'est que la personne va pouvoir de nouveau mobiliser sa mâchoire de façon bien meilleure va ouvrir surtout beaucoup plus largement la bouche, va avoir aussi...
Vous passez par où, là? Par l'oreille, hein, du coup, pour ça?
Devant l'oreille. Devant l'oreille, il y a une sorte de zone qui s'appelle, donc, ben, justement, là où il y a le ménisque en question, et c'est la tempe, au niveau de la tempe, exactement. Et dans ces cas-là, on a une amélioration de l'acouphène qui survient soit immédiatement, soit de quelques jours après.
Ça, vous le faites au cabinet, pas besoin d'aller à l'hôpital?
Dans n'importe quel cabinet, oui, n'importe quel cabinet d'ORL.
Qui a donc ce laser,
qui a ce laser.
C'est un laser spécial, quand même, j'imagine. Hein, c'est
ce qu'on appelle un soft laser, un laser
doux.
Voilà.
D'accord. Et ça coûte combien, ce genre d'intervention, ça
c'est remboursé? C'est une consultation normale.
Ouais, c'est normal.
Il n'y a pas de prix particulier.
D'accord. Et pas de ça enlève en fait la pression au niveau du nerf auditif. Hein, c'est ça.
Du nerf auditif et surtout au niveau de l'articulation qu'on appelle l'articulation temporomaxillaire qui est devant le nerf auditif et qui peut faire pression sur la caisse du tympan.
D'accord. Et ça les patients, ils sont contents? Ça marche bien? Combien de réussite à peu près?
D'habitude, ça marche assez rapidement sur l'inflammation. Ça ne va pas faire disparaître l'acouphène, mais ça va diminuer au moins les symptômes.
Jimmy?
Il y a aussi ce qu'on appelle les générateurs de bruit blanc. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est et si ça marche?
Et ça marche aussi. Mais enfin, la différence, c'est qu'en fait, là, le problème, c'est que c'est une sorte d'appareil qui va être donné par l'audioprothésiste au patient et qui va essayer de se mettre sur la fréquence de l'acouphène. Imaginons que c'est un 4 000 Hz, par exemple. Le bruit blanc va émettre un bruit qui est en fait négatif,
qui est un
masqueur de bruit, c'est un contre-bruit, et qui va se mettre sur la même fréquence. Un peu comme un transistor qui serait mal réglé.
Mais qu'on a toujours accroché à l'oreille, alors.
Pour régler sur la bonne fréquence.
Mais pourquoi on ne donne pas ça à tout le monde alors? Parce que moi, je vois des patients souffrir et qui ne pensent
pas. Parce que ça ne marche pas à tous les coups, d'une part, et d'autre part, parce que c'est une contrainte, parce qu'il faut le porter un peu comme un appareil auditif tout le temps.
Oui, mais entre la contrainte et la qualité de vie qui peut être améliorée, il faut aussi parfois.
On le propose. Donc, a priori, le patient, des fois, utilise cette technique.
Et ça, toutes ces techniques que vous avez parlé, c'est des choses que vous proposez systématiquement, que tous les ORL proposent, parce que j'ai quand même l'impression que les patients, quand ils viennent, on leur dit bon, vous avez un acouphène. Bon, on a fait quelques examens rapides,
faites avec.
On n'a pas grand-chose à vous proposer parce qu'on sait que rien ne marche. Et c'est souvent le discours qu'ils nous disent, rien ne marche. Et là, vous nous avez donné plein de techniques, entre le laser, l'histoire de bruxisme, les traumatismes sonores. Donc finalement, on peut aider les gens à aller mieux avec...
On peut aider les gens, mais en sachant toujours que c'est limité dans l'amélioration. C'est-à-dire qu'on ne va pas guérir entièrement l'acouphène, on va diminuer les symptômes, on va améliorer les choses.
Et vous en guérissez quand même certains?
Certains, on peut guérir lorsque, par exemple, c'est un traumatisme récent et qu'en fait, il y a un vrai déplacement. Voilà, imaginons, par exemple, quelqu'un qui a un manque de molaire au niveau dentaire. Il va mordre que du côté gauche, pas du côté droit. Donc, cette personne va avoir un déplacement complet de son ménisque après, parce qu'il va un peu comme une... Imaginez, voilà, une voiture qui, avec des pneus dégonflés d'un côté, et des pneus bien gonflés de l'autre. Dans ces cas-là, les amortisseurs souffrent des côtés. Et ces amortisseurs souffrent, on peut dire la même chose pour les dents. Les dents, c'est les pneus, et les amortisseurs, c'est l'articulation temporomaxillaire
dans
les oreilles. Eh bien, en fait, l'amortisseur en question, si on remet en fait le ménisque à la bonne position, il y a dans ces cas-là une amélioration immédiate quasiment du problème.
Très rapidement, le mieux c'est quand même de ne pas en avoir l'acouphène. Est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous donnez au moins aux jeunes? C'est...
Alors, le conseil le plus important, c'est surtout faire attention au MP3 trop fort, où il y a dans les concerts comme les rêves parties. Dans
trop
ces cas-là,
fort, c'est quoi?
Ça dépasse 90 de 100 décibels. Il faut faire très attention dans ces cas-là. Il y a un risque à la fois d'acouphène et de sûreté brusque.
Et comment on sait à la maison que notre ado il a dépassé les 80 décibels?
Ben, lorsqu'on est à côté de lui et qu'en fait on l'entend
de l'autre pièce,
c'est qu'en fait il a dépassé le...
Bon, ben, c'est un bon moyen de savoir qu'il est trop loin. Merci beaucoup docteur Kamami d'être venu
Merci
sur notre plateau.
Grâce
à vous, on en sait plus sur les acouphènes et on a vu qu'il existe heureusement quelques solutions pour s'en débarrasser. Merci.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien, et aujourd'hui on s'est intéressé au don du vivant. C'est le thème choisi cette année par l'Agence de la biomédecine à l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien, et aujourd'hui on parle du don d'organes, c'est la journée mondiale et en fait on fait le point sur le don du vivant. Quel organe peut-on donner? Tout le monde peut-il faire cet acte de générosité? Est-ce dangereux? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, on écoute son micro-trottoir.
Le don d'organes du vivant, c'est-à-dire signer une décharge de son vivant pour dire qu'à notre mort, on est OK pour donner nos organes?
Quelqu'un qui va, par consentement, signer, va donner son organe pour que la personne aille mieux.
Je suppose pouvoir donner ses organes tant qu'on est encore vivant, par exemple un rein ou quelque chose comme ça, puisqu'on peut survivre avec un rein sur deux, donc on peut en donner un.
Je sais qu'on peut donner un rein ou même de la moelle osseuse.
On peut aussi donner du coup notre peau pour des greffes. cartilage, des choses comme ça, j'en sais rien. Je me demande s'il n'y a pas le foie.
Je pense à d'autres choses qu'on a en double. Est-ce que je sais pas si on peut donner testicule, si ça peut servir.
Par contre, on peut pas donner un cœur.
Je pense qu'il faut une compatibilité des groupes sanguins. Et je pense qu'il faut aussi que les organes soient en bonne santé, parce qu'on peut vouloir donner ses organes, mais bon, s'ils sont abîmés, je pense que ça sert un peu à rien.
Je pense précisément qu'on doit rester 2 nuits et 3 jours en observation.
Ouais, non, je serais pas chaud de donner un rein à n'importe qui. Je pense que c'est un acte chirurgical assez lourd, donc oui, à quelqu'un de ma famille. Ou à des amis, des bons amis.
Alors, elle a raison, on ne donne pas son rein à son voisin. Justement, c'est très encadré, Jimmy, hein, okay. On est d'accord. Il y avait de l'idée quand même, hein, dans le oui. micro-trottoir. Les gens savent à peu près ce que c'est, hein, le don du vivant, mais...
C'est un peu laborieux quand même.
C'est un peu laborieux, ouais. Trouver. Bon, alors est-ce que tout le monde peut donner un rein, par exemple? Parce que bon, du vivant, on peut pas tout donner, évidemment. On peut pas donner son cœur.
Hein, non, exactement. Sauf à sa femme ou à son homme,
ouais.
Pourquoi pas.
Oh, vous êtes beau, vous êtes romantique.
Le romantisme en cette fin
d'émission.
Dommage qu'elle ne m'écoute pas en ce moment, mais c'est pas grave. Elle écoutera le podcast. Alors donc non, il faut déjà être majeur pour donner. Et puis il y a des conditions qui sont très strictes, qui ont été définies par la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. Et donc qui a élargi le cercle des donneurs vivants d'organes, qui peuvent être le père ou la mère,
évidemment.
Évidemment. Et puis par dérogation, un fils ou une fille.
Oui, je peux donner à ma mère ou à mon
ou une
père.
Sœur, ouais. Exactement. Son conjoint, ses grands-parents, l'oncle, la tante, les cousins germains.
Ah, quand même, ça fait là beaucoup de familles.
Conjoint du père ou de la mère. Et puis par dérogation, on peut, lorsqu'on apporte la preuve d'une vie commune pendant au moins 2 ans avec le receveur, ou toute personne qui peut apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans avec le receveur, donc votre voisin dont vous parlez tout à l'heure,
si
vous avez
rien,
des relations affectives et voilà, vous tenez à lui, vous pouvez lui donner un rein si vous le souhaitez.
Bon, j'imagine qu'il y a quand même aussi des conditions médicales quand même.
Oui, effectivement, déjà il faut rechercher la compatibilité parce qu'on donne, il faut que la compatibilité soit possible entre le donneur et le receveur, donc c'est la règle fondamentale lorsqu'on fait des transplantations du vivant. Ensuite, évidemment qu'on fait un bilan complet lorsqu'on va donner pour être sûr que on est en bonne santé.
Oui.
Donc un examen clinique, radiologique, biologique.
On ne va pas vous mettre en danger non plus.
Exactement, que vous êtes capable de supporter cette intervention et puis que le donneur, le receveur, lui aussi, peut aussi recevoir votre organe. Bref, on fait des examens.
C'est pas mal de batteries de tests, effectivement. Alors une fois qu'on a vérifié tout ça, que tout est bon, qu'on est dans la règle et qu'on est en bonne santé, c'est pas risqué quand même de faire ce don, de donner un rein par exemple?
Non, avec un rein, on vit très très bien. Il n'y a pas de traitement particulier. On a une vie tout à fait normale. Et lorsqu'on donne un rein, l'intervention se fait par anesthésie générale. Dans l'immense majorité des cas, ça se fait par celluloscopie. C'est-à-dire on fait juste des petits trous au niveau du nombril et on passe par une petite caméra. Et parfois, on doit faire une incision sous les côtes. Mais dans 80% des cas, c'est la petite intervention par celluloscopie. L'hospitalisation dure en règle générale 3 à 10 jours. Mmh. Elle est plutôt bien tolérée. Et en règle générale, ça se passe bien. Et on peut même avoir une grossesse et tomber enceinte avec un seul rein.
Et donc, il n'y a pas de complications à cette chirurgie?
Elles sont rares. Les complications, elles sont estimées à entre 1 et 3% des cas. Les complications plutôt graves. Donc finalement, ça se passe bien. Les équipes qui le font, il faut le rappeler, c'est des centres experts, donc qui ont l'habitude de faire ça et qui récusent des patients qui ne peuvent pas faire le don ou qui ne peuvent pas recevoir. Donc c'est très bien encadré.
Et juste pour terminer, c'est quoi l'avantage pour la personne qui reçoit un rein de quelqu'un de vivant en fait?
Alors il y en a 3. Le premier, c'est que forcément on a accès à une greffe de rein beaucoup, dans un délai beaucoup plus court.
Et oui.
Ça évite le temps de dialyse. Il ne faut pas oublier que la dialyse, c'est un moment très compliqué lorsqu'on doit y aller 3 fois par semaine. Les personnes sont souvent affaiblies et en plus de ça, le rein qui est greffé fonctionne mieux. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on s'est rendu compte que les personnes qui donnaient leur rein, elles étaient en meilleure santé que les autres parce qu'elles avaient un meilleur suivi.
Et oui, après,
donc,
il faut
donner
un rein, on
n'a pas d'impact
près.
Sur votre qualité de vie. Bref, c'est un geste pour les autres, mais aussi un geste pour vous.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'infos sur le don d'organes en général, un site, celui de l'Agence de la biomédecine, dondorganes.fr.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de la taille du pénis. Alors que chez la majorité des hommes, elle est tout à fait normale, chez certains, vous verrez que ça peut tourner à l'obsession. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Olivier, 38 ans, je vous la lis. Depuis ma jeunesse, je complexe quant à la taille de mon sexe. Mes partenaires n'ont jamais semblé en être dérangés et ES et m'en faire le reproche. Mais pour moi, dévoiler mon anatomie a toujours été un supplice de la vie médicale. Il n'y a rien à redire de mon côté.
tenter, mais je ne parviens pas à me sortir cette idée de la tête. Qu'en pensez-vous ? Alors, on y revient, hein, ces questions de la taille, ça revient souvent, hein, ces questions-là d'auditeurs autour de la taille du pénis, de ce qui est normal ou pas. Catherine, c'est vraiment une question aussi fréquente que ça chez les hommes ?
Alors d'abord, soyons d'accord, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Hein, donc ça, c'était Coluche qui disait, c'était tout à fait génial. Donc, effectivement, c'est une question qui se pose et qui se pose toujours. Non pas pour des... Alors bien sûr, il y a la pornographie qui en rajoute et qui donne une idée du maître étalon, mais c'est aussi parce que se construire en tant qu'homme nécessite de se sentir tranquille, légitime, et selon nos histoires personnelles, eh bien tous, nous n'avons pas la même lecture de nous-mêmes. Et pour peu qu'on ait un papa qui est grand, fort, tyrannique, écrasant, etc., eh bien un jeune homme va se construire plus difficilement dans une idée de sa propre appétence, sa propre capacité, sa propre force. Et qu'il va attribuer à son pénis, puisque c'est l'organe qui va symboliser sa virilité.
Mais ce qui est bizarre, là, quand même, avec l'histoire d'Olivier, c'est que ça semble carrément obsessionnel. Hein. Il a même demandé apparemment un avis médical. On lui a dit tout est normal, et malgré ça, ça continue de complexer. C'est
oui,
fort, quand même.
Parce que ça rend compte d'un grand doute quant à lui, surtout si l'avis médical dit qu'il n'y a rien d'anormal.
Il n'a pas de micro-pénis, apparemment.
C'est qu'il n'a pas de micro-pénis, absolument. Donc, ce qui est d'ailleurs une toute petite, parce qu'on ne peut pas croire que parce qu'on parle de ça.
Qu'il une toute petite proportion.
Toute petite proportion de la population. Donc, il ne faudrait pas que tout d'un coup on ait des angoisses chez nos auditeurs. Donc c'est vraiment une idée tout à fait subjective qui est une lecture de soi et de sa valeur. C'est-à-dire que en fait le pénis étant extérieur à soi et mesurable, eh bien c'est souvent comme pour les femmes leur sein par exemple. Eh bien c'est souvent sur ces points-là qui racontent le pouvoir du masculin ou du féminin. Eh bien que nous nous attachons pour essayer de mesurer concrètement l'étendue de notre pouvoir et de notre capacité.
Jimmy ?
Cette phrase n'est pas de moi, elle est du professeur Desgrandchamps, urologue, qui disait « L'important n'est pas de toucher le fond, mais de bien frotter les bords ». Ce qui veut donc dire que... Non mais les hommes qui sont
obsédés...
Je savais
que vous la ressortiriez, celle-là.
Ah oui, mais cette phrase, elle est magique.
Oui,
non, mais ce qui
super.
Veut donc dire que pour les hommes, c'est pas la longueur qui est très importante, enfin plutôt pour les femmes, c'est la circonférence, le diamètre du sexe.
Oui, ceci étant, le sexe féminin étant une cavité virtuelle qui va prendre la forme de ce qui le pénètre, eh bien, quand bien même il serait tout fin...
Même elle serait carrée,
eh bien,
ça rentrerait normalement.
Voilà, ça rentrerait normalement et ça toucherait le bord. Donc, en fait, c'est... Et puis même la longueur d'un vagin est assez court, puisqu'au
finalement,
repos,
ouais.
Il est vraiment de 5-7 cm seulement. Donc, c'est vraiment... même pour avoir une idée de profondeur et toucher la profondeur du vagin et notamment le col de l'utérus, eh bien, de toute façon, même tout petit, en tout cas, de proportion normale, à moins d'être plus petit justement que le vagin, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, c'est vraiment une idée de doute quant à soi, de confiance contre soi, et c'est moins une histoire de corps qu'une histoire psychologique sur laquelle il a tout intérêt à réfléchir.
Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller concrètement à Olivier ? Parce qu'apparemment, il n'a pas de problème médical, il n'y a aucune nana apparemment qui s'est jamais plainte de ça, de la longueur de son sexe, donc... Et ça continue à l'obséder. Il dit qu'il se déshabiller, c'est un supplice. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller d'aller faire une psychothérapie, peut-être ?
Oui, là, je crois que c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a une vision si dévalorisée de lui-même. Il peut y avoir des choses très humiliantes vécues dans l'enfance.
C'est comme une dysmorphophobie aussi,
exactement.
En plus, parce que c'est faux. Finalement, il n'y a pas de problème.
Absolument. Donc, ça peut être des violences subies, des violences de... Les enfants, parfois, entre eux, sont d'une grande cruauté, ou ça peut être une humiliation qui vient de la part d'adultes, renvoyer un enfant qui, de fait, n'est pas à la hauteur de l'adulte et qui ont fait le lit d'une anxiété qui a grandi et qui a pris
chez
la
lui
forme
c'est forcément assez profond hein, non j'ai l'impression
absolument mais vraiment il y a des hommes qui sont capables jusqu'à faire des choses pas toujours très respectueuses de leur corps voire parfois de mutilation en voulant essayer de l'allonger de la grossir etc. Après il y a des choses fantastiques qui existent en chirurgie mais avant de se lancer là dedans je crois que faire la paix avec son corps c'est encore la plus jolie voie pour se construire et pour avancer dans la relation. Et puis noter aussi le désir des femmes. Et d'ailleurs, une patiente me disait un jour, en parlant d'un homme avec lequel elle découvrait la jouissance pour la première fois de sa vie à 37 ans, et elle disait, mais c'est incroyable, et surtout qu'en plus, il n'a pas un pénis extraordinaire. Et c'était mignon. Très joli, parce qu'elle avait eu justement des hommes qu'elle disait très membrés. Et en fait, là où s'est fait le plaisir n'était pas du tout de ce côté-là.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et ces conseils rassurants. Donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans Sans Rendez-vous, ce sera une émission spéciale sur le mal de dos. Mais pourquoi est-ce que finalement ça devient le mal du siècle? Comment le traiter, qu'il soit passager ou chronique? On vous dira tout. On vous dira aussi qu'il faut bouger pour guérir plus vite. On vous dira comment tout ça fonctionne. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, toujours un plaisir de vous retrouver l'après-midi. Vous restez avec nous, l'équipe est sauvage arrive. Deux heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se battent au service de votre culture G. Aujourd'hui, on reçoit Claire Chazal qui présente tous les soirs sur France 5 à 20h20 Passage des Arts. Elle aime comme nous l'éclectisme, peut-être en un peu plus chic.
Allez, on va vous écouter. Merci beaucoup Mathieu, bonne émission et surtout restez sur Europe 1.